Bonjour
Je
à toutes et à tous. Donc Nathan Soulier, avocat au sein du cabinet Bird and Bird. J'interviens dans mon quotidien sur le digital, mais ça veut tout dire et rien dire. Alors plus particulièrement, je vais accompagner les entreprises dans leurs projets digitaux avec un gros focus protection des données personnelles, mais de plus en plus maintenant les enjeux liés à la donnée, qu'elle soit personnelle ou non. Et donc notamment avec des nouvelles réglementations qui arrivent de plus en plus sur ces aspects-là, et donc on accompagne les entreprises dans ces secteurs. Je suis membre de la DIRA depuis quelques années. Et je suis également au conseil d'administration et secrétaire de la DIRA. Alors, c'est avec plaisir que j'ai répondu à la proposition de Marie-Laure et Raphaël sur ce sujet. J'ai entendu dans la présentation de tous les participants qu'il allait avoir plusieurs niveaux de connaissances sur le sujet. Donc si pour certains je leur donne pas assez, je m'en excuse, mais bon, on a quand même des spécialistes de l'IA qui en font leur métier au quotidien, donc et on en a d'autres où ça peut être un sujet beaucoup plus obscur, donc on va essayer de trouver un intermédiaire. L'idée de la présentation, c'est aussi qu'on puisse avoir une réunion interactive. Je vais vous poser des questions et n'hésitez pas du coup à prendre la parole et puis à interagir, intervenir. Comme ça, voilà, on aura quelque chose de moins unilatéral et de plus interactif. Alors, parce qu'en bon juriste, on ne peut pas commencer une présentation sans des définitions et sans connaître, mettre des mots sur l'objet dont on va discuter. Je suis allé chercher une définition juridique donnée par notre Parlement européen sur ce qu'est l'IA, où elle vient nous dire c'est tout utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Des IA, il y en a de différentes formes, et plus récemment, ça s'est propagé comme une traînée de poudre depuis novembre dernier. On est venu parler du sujet de l'IA, même si c'était quand même un sujet présent depuis quelques années, avec l'avènement des IA dites génératives. Donc des IA qui, contrairement à, par exemple, des IA prédictives, qui elles vont être capables de faire des tendances par rapport à une analyse d'énormément de données. Ces IA génératives, comme le nom l'indique, vont être capables de générer du contenu. Donc, il y a eu vraiment une accélération. Hein. Pour rappel, en novembre, on avait la première version de ChatGPT. En mars 2023, on avait la version 4. Et avec, du coup, on s'est rendu compte en quelques mois, en moins de 5 mois, des capacités de réalisation beaucoup plus importantes. J'affiche à l'écran quelques outils d'IA générative ou qui aident à l'IA, qui sont utilisés pour l'IA générative. Et ce sujet d'actualité qui, un petit peu comme les NFT 1 ou 2 années en arrière ou encore le métaverse, excite un petit peu tout le monde et du coup, personne veut aller sur le sujet et des fois, ils vont sans se poser les questions sur quels sont les risques juridiques à utiliser ce type d'outils. Pour la présentation, on va parler bien entendu des risques liés à l'utilisation de l'IA générative parce qu'elle ça a pris une traînée de poudre dans les entreprises avec une utilisation de plus en plus fréquente, mais on évoquera éventuellement d'autres formes d'IA. Voilà, des risques qui peuvent vous intéresser, notamment sur l'aspect recrutement. Quelques chiffres après, pour qu'on se rende bien compte. Une étude réalisée très récemment, 90% des entreprises pensent que l'IA est une véritable opportunité et pas juste un effet de mode. 91% des entreprises type grand groupe vont aller là-dedans. Un chiffre très intéressant, 60% des entreprises qui ont eu qui ont déployé des solutions avec de l'intelligence artificielle ont enregistré une hausse de la productivité. Et c'est des chiffres que je peux constater également par rapport aux clients qu'on accompagne sur ces sujets-là, sur ces aspects. Et enfin, on a de plus en plus maintenant, notamment dans les relations, qu'elles soient B2C ou B2B, donc dans les relations entreprise-client, des interactions qui sont menées par des IA, avec en premier lieu, bien entendu, les chatbots. Introduire l'IA en entreprise, quelles étaient les opportunités qu'on pourrait avoir à utiliser de l'IA en entreprise, que ça soit pour une utilisation en interne ou une utilisation externe, c'est-à-dire tournée vers ses clients ou ses partenaires, notamment dans l'industrie de plus en plus, que ça soit de la gestion d'entrepôts, de la gestion de bras robotisés, etc. Et la maintenance prédictive, par rapport à une analyse des 6 derniers mois, on voit de plus en plus de solutions apparaître, et du coup avec des problématiques puisque bah, on va avoir des données bah, par exemple chez vous, on pourrait connaître les quantités de produits utilisés, les quantités de production en sortie d'un prestataire qui viendrait traiter toute cette donnée pour ensuite vous rendre une prestation de maintenance prédictive. Donc finalement, dans quelque chose de très technique, votre prestataire pourrait en connaître beaucoup sur votre activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que enfin, il y a, si c'est pas aujourd'hui, c'est en tout cas, c'est juste demain de l'analyse du code, etc., et la rédaction d'articles. Et là, on est déjà dans plein de problématiques juridiques qu'on va voir juste après, quoi. C'est intéressant parce que le panel qu'on représente autour de cette table, ben, ça, c'est vraiment les. Donc c'est ben déjà une nouvelle opportunité pour analyser la donnée qu'on génère et cette opportunité derrière pour faire de nouveaux services. Il y a vraiment maintenant des nouvelles lignes de services qui apparaissent avec des entreprises et même certaines hein, qui nous ont contactés une en 2020 où on était se prendre en photo pour analyser la qualité du cheveu et proposer du coup des soins spécifiques aux cheveux. On a donc une utilisation de l'IA pour le recrutement et ça de plus en plus. Même si là, du coup, pour la rédaction d'annonces, j'ai entendu, mais on n'est pas sur de l'IA générative, on est surtout sur de l'IA d'assistance au recrutement et à identifier les candidatures qui lui sortiraient du lot. On a aussi le service client avec. Oui, le chatbot, mais ça va même plus loin parfois. Certaines entreprises commencent à coupler l'IA avec de la génération de voix et donc à travailler sur, du coup, être capable d'avoir un service client de niveau 1 par téléphone intégralement géré par IA. Et ça fonctionne. Ça fonctionne alors sur des entreprises anglophones, mais on a des conversations qui sont assez poussées et des réponses qui permettent vraiment de délivrer un premier niveau d'interaction avec le client. Et après, j'ai mis fonction administrative, mais c'est plus la tâche quotidienne. Et donc là, on va être plutôt sur de l'IA qui va permettre de l'automation, de l'automatisation de tâches répétitives qui ont été évoqués dans les différents retours que vous avez faits. Donc, merci à tous pour ce partage d'expérience. C'est vraiment intéressant. Bah, à chaque fois, ça va générer potentiellement des risques juridiques. Et pourquoi ça va potentiellement générer des risques juridiques? Parce qu'on joue avec de la donnée. On joue avec trois types de données, de la donnée d'entraînement de l'IA. Qu'on aura trouvé, soit qu'elle est librement accessible, soit qu'elle est fournie par un tiers, par un client, ou soit c'est de la donnée personnelle. On est allé renseigner des fiches clients, par exemple, pour faire mouliner l'IA. On a après, derrière, quand on va être l'utilisateur, on va mettre donc des données d'entrée au niveau du prompt. Et derrière, on aura la donnée de sortie, le résultat, le contenu généré par l'IA. Et en fonction de la nature de ces données, on va du coup venir enclencher, enfin, venir, oui, pas enclencher, pardon, venir appliquer différents pans du droit qui peut s'appliquer. Donc ça va être, quand on est sur la donnée personnelle, ben, bien évidemment le RGPD. Quand on va être sur une donnée de type création d'image ou création de texte, ben, on va tout de suite penser propriété intellectuelle. Donc on a déjà un corpus de texte qui existe aujourd'hui et qui va venir s'appliquer à l'IA. Mais on a également des activités générées par l'IA qui pour l'instant échappent à toute législation, et c'est aussi pourquoi, et on finira là-dessus, mais le texte change tous les jours, donc c'est un petit peu compliqué quand même de pouvoir en parler de façon définitive sur ces apports. C'est au niveau européen, on est en train donc de travailler sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui, un peu comme le RGPD, viendra encadrer l'utilisation de l'IA, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, premier cas, et ça a été indiqué tout à l'heure, donc pour ben, notamment le test en cours à l'ARS sur l'utilisation de l'IA pour traiter les candidatures, évaluer un salarié. Donc, il y a quelques années, ça relevait un petit peu, on le voyait dans la littérature et on ne voyait pas trop d'applications. Maintenant, c'est vraiment généralisé, ce type d'outil. Et c'est également généralisé quand, pour une annonce, on a des centaines de candidatures, ou du coup, pour faire un tri et pas prendre les 30 premiers en haut de la pile, on peut faire appel à une IA pour se dire, peut-être que le 50e dans la pile, il était peut-être meilleur que les 30 premiers, donc on va faire appel à une IA. Le problème, c'est que là, on vient mettre en données d'entrée de la donnée personnelle, et donc on vient se placer dans le champ du RGPD qui traite des décisions entièrement automatisées que l'IA réalise. Donc, une décision est entièrement automatisée. Donc, il n'y a, comme son nom l'indique, aucun être humain qui intervient dans le processus. Et on doit avoir une attention particulière, c'est pour ça que j'ai mis la petite loupe, quand dans ces décisions entièrement automatisées, elles produisent un effet juridique ou un impact majeur sur la personne. Et notamment, empêcher la personne d'accéder à un emploi, c'est un impact majeur. Donc là, il faut faire attention. C'est-à-dire que dans ce type de dispositif, si on s'en remet intégralement à l'IA et qu'on ne fait pas intervenir d'humain, en tout cas avec une présélection, et vraiment on va prendre juste un ou deux candidats, automatiquement faire partir un mail de refus pour les autres, etc. Là, on va être sûr. Une décision entièrement automatisée qui a des effets juridiques sur la personne. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut qu'on ait eu l'accord de la personne. Donc ça veut dire éventuellement que si vous utilisez une plateforme de recrutement, Smart Recruiter, Talent Detection, etc., il faut que vous puissiez, au moment où la personne dépose son CV, venir recueillir son consentement en lui expliquant qu'il va y avoir une sélection par IA, etc. Si ce n'est pas le cas, on peut éventuellement aller chercher une base légale qui va être le fait que c'est nécessaire pour la conclusion d'un contrat, en disant j'ai trop de candidatures et il faut que ça soit j'ai besoin de l'IA pour conclure mon contrat. Le problème, c'est que là, on a une approche vraiment très stricte de cette notion, et qu'on considère que pour que ça soit nécessaire, il faut vraiment démontrer que on est avec des centaines et des centaines de candidatures. Ça, c'est un point qui va être après difficile à démontrer, mais en tout cas, il faut mettre des seuils pour se dire qu'on peut bénéficier de cette exception. Et ce que je vous dis là pour le recrutement, ça peut également marcher pour du profilage, de l'appréciation du rendement au travail et donc de l'évaluation de collaborateurs une fois que le collaborateur est en entreprise et donc dans le suivi de sa carrière. Donc c'est pareil, hein, il faut avoir en tête ce risque juridique. Et plus que on peut pas le faire n'importe comment, comme je vous dis, il faut répondre à certaines conditions préalables. Les personnes concernées, elles ont des droits particuliers et elles ont notamment deux droits particuliers, en plus des droits classiques hein, prévus au RGPD, c'est qu'on va avoir une obligation de transparence où on va devoir expliquer à la fois au candidat, lui dire ben, il y aura une sélection par IA, mais en plus de ça, il faut lui expliquer la logique sous-jacente. Et là, on a une difficulté, c'est que si l'IA, elle n'est pas développée en interne, vous prenez un produit sur étagère. Ce qu'il y a dans la black box, ben, on va pas nécessairement, vous n'allez pas nécessairement le savoir. Et vous pouvez avoir aussi des logiques sous-jacentes, c'est ce que je mets dans l'encadré, qui vont être contraires au droit du travail. Donc, je caricature pour que ça soit très clair à tout le monde l'exemple, une logique sous-jacente qui exclurait un genre en particulier pour un emploi. Ben, on serait clairement dans un acte de discrimination prohibé par le Code du travail. Et donc, l'utilisation d'une IA sur étagère vous mettra en violation à la fois du RGPD parce que vous êtes incapable d'expliquer les logiques de sélection sous-jacente, mais également vous serez en violation du Code du travail puisque vous feriez, et du Code pénal puisque vous feriez de la discrimination par le sexe.
Je peux me
Enfin,
permettre de,
oui.
on peut interagir du coup à tout moment ou
Bien sûr,
elle
il n'y a pas de problème.
non. Non, juste moi, donc moi je suis en recrutement, donc je suis très sensible à tout ce que vous venez de dire. Je me permets aussi voilà, d'être volontairement dans une autre extrémité voilà, pour aussi pousser la réflexion.
Bien sûr.
Aujourd'hui, le recrutement, il y a forcément un humain. On recrute un humain et c'est un humain qui recrute un humain. Donc l'IA aujourd'hui peut plus, à mon sens, et c'est là où j'aimerais que vous me conseilliez sur. On va avoir besoin d'IA quand, par exemple, sur un besoin, et notamment dans le domaine IT, où on a besoin d'une compétence technique, un langage technique précis, donc un mot-clé technique, parfois sur les CV, il n'est pas là, ce mot. Donc l'IA, pour moi, va me faire gagner du temps énorme, me dire, bah, ce CV où j'ai pas, je donne l'exemple Power Platform, eh ben, il est refusé. Mais parce que de base, sur le CV, il n'y a pas eu ce mot-clé. Donc autant que je gagne du temps, et voilà, s'il n'y est même pas dans ce CV, ça veut dire que la personne ne connaît même pas, n'a même pas cette compétence, n'a même pas vu de près ou loin en formation dans son parcours. Du coup, ça ne sert même pas mon intérêt, moi, de recruteur. Donc je le mets finalement en candidature non retenue de manière automatique. C'est à
Là,
mon sens.
là-dessus, il y aura pas de, il y aura moins de difficultés. Après, c'est toujours une appréciation cas par cas, hein. Mais il y aura moins de difficultés s'il était clair dans votre annonce, notamment, que vous attendiez cette compétence. Et parce que pour qu'elle ressorte dans le CV, la lettre de motivation. Si c'est pas, on a le même exemple sur les modules de recrutement en candidat libre. Si la personne candidate à un poste d'acheteur et vous avez aucun poste d'acheteur ouvert, la candidature, elle est automatiquement traitée par l'IA avec un mail automatique qui déclenche en disant bah, désolé, on n'a pas de poste qui sur ce sujet, il n'y a pas de traitement d'humain. Et il y a un critère qui n'est pas gênant puisque on n'a pas empêché la personne de bénéficier de l'emploi, ce que je disais tout à
Oui,
l'heure, elle n'a
oui,
pas eu
oui.
d'impact juridique fort sur elle, puisque de toute façon, que ce soit l'IA ou l'humain, la décision aurait été la même. À quel moment on va dire à l'IA, ça tu nous le sors et ça tu nous le fais remonter. Mais pour revenir du coup sur l'exemple, je comprends l'assistance de l'IA et l'utilité pour trier une masse de CV. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire à un candidat, je te sors parce que tu ne parles pas Python, si vous n'avez pas dit, recherche un candidat en Python.
Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Après, en fait, c'est retranscrire via l'IA ce qu'on fait nous naturellement. Quand j'ai un besoin d'avoir plateforme identifiée, je sais que j'ai besoin qu'il y ait cette compétence-là. Donc, ben, c'est moi à la main qui vais regarder les profils. Donc, si j'ai un outil qui peut me faire gagner du temps, j'ai envie de dire tout le monde est gagnant parce que le candidat, il aura aussi une réponse plus rapide. Et du coup, il sait que cette piste-là, elle est morte pour lui parce qu'il a eu une réponse négative, plutôt que d'attendre que voilà, nous, on analyse, on étudie et qu'on lui fasse une réponse dans un délai qui est plus long. Après, vous donniez l'exemple tout à l'heure du critère genré. J'ose espérer qu'aujourd'hui, les recruteurs, on est quand même une population très sensibilisée à ça, à tout ce qui est discrimination. Et bon, voilà, j'ose espérer qu'à un moment donné, on ne va pas utiliser l'IA pour revenir dans des travers de discrimination tels que vous avez pu le décrire. Donc.
Non, c'était un exemple tarte à la crème pour illustrer et que ça soit compréhensible par tout le monde. On peut toutefois avoir quand même des biais de refus de candidature par une IA parce que encore une fois, par rapport au set de données qu'elle aura avalé et comment elle aura travaillé, elle peut être biaisée en se disant moi, tous les CV que je vois dans l'entreprise, ils sont de type masculin, inférieur à 50 ans. Et donc, elle, se dire, ben, ça, c'est quelque chose que c'est un critère que du coup, je vais prendre en compte dans ma pondération des candidatures. Le problème, c'est que quand c'est vous, il n'y a pas de problème quand c'est vous qui avez la main totale sur les paramètres, mais si jamais demain, on a des prestations de sociétés qui font ça sur étagère, vous ne savez pas comment derrière ça mouline. Donc c'est juste des points d'attention en tout cas, et notamment, ben, si demain vous devez sélectionner trois candidats, enfin trois sociétés qui vous proposent ce type de vous faites un appel d'offres, ben, les challenger là-dessus, c'est quand même intéressant. Je revenais du coup sur le deuxième droit quand même qui est important, donc c'est le droit à l'intervention humaine. Donc une personne peut demander du coup à ce qu'il y ait une réexamination de sa situation. Juste en pratique, j'attire votre attention sur le délai, c'est-à-dire que sur une candidature où le logiciel rejette automatiquement la candidature et après derrière on a sélectionné un candidat, il est embauché. Si la personne derrière elle n'a pas eu le temps de redemander le recours à une intervention humaine, c'est trop tard, le poste il est pourvu et du coup ce droit à intervention humaine n'a plus d'effet. Donc il faut quand même, en termes de timing aussi, avant de faire la sélection définitive, laisser un petit peu de temps pour permettre aux personnes qui ont eu un refus automatique prononcé par l'IA de pouvoir exercer ce droit à intervention humaine. On est aussi parfois, peut-être un candidat qui se dira l'outil a été faillible. Et telle compétence apparaissait bien sur mon CV et ça n'a pas été vu. Sur le prochain risque, j'ai mis l'utilisation d'IA pour générer un logo parce que ça va me permettre de déclencher plusieurs droits de propriété intellectuelle. Mais tout à l'heure, on a dit utilisation de l'IA générative pour du texte, pour du marketing. Donc voilà, on est en plein dedans. On a donc de l'IA qui est utilisée pour des créations. Et donc là, on va faire appel à des problématiques de propriété intellectuelle et notamment de droits d'auteur. Tout d'abord, sur l'IA, sur les données qui sont utilisées pour entraîner la machine. Donc, le dataset que l'on donne à la machine pour qu'elle puisse apprendre, si on est sur de la création de logos, par exemple, ben, on va lui injecter d'abord pour qu'elle apprenne des logos, il y a de fortes chances que parmi ces logos, certains soient protégés par le droit d'auteur. Et donc, on a un sujet déjà, est-ce que quand j'entraîne ma machine avec ces logos, ou même quand en données d'entrée, je donne un logo et après, dans mon prompt, je lui demande éventuellement des variations, est-ce que je ne fais pas un acte de contrefaçon? Alors, encore une fois, on est dans un flou juridique là où c'est pas clair et il y a clairement des débats entre juristes sur le sujet. On a des dispositions où on nous dit un logiciel qui permet d'éditer et de mettre à disposition du public sciemment des œuvres protégées, ça c'est interdit. Or, si j'injecte des logos de sociétés actuelles et que derrière on me propose, par exemple, je veux un logo qui ressemble au logo de Pôle emploi, mais dans des variations de couleurs différentes, on va clairement avoir la reproduction in extenso du logo de Pôle emploi. Et donc là, on a du coup un sujet, puisque du coup, on va dire, l'utilisation qui en a été faite est un acte de contrefaçon. Et en même temps, pour rassurer et ne pas mettre un frein à l'utilisation de l'IA, il y a quelques semaines en arrière, la Commission européenne, via Thierry Breton, le commissaire européen, qui est venu nous dire, non, mais quand on met, utiliser le mot de big data, quand on est allé mettre de la big data dans une IA en données d'entraînement, on fait pas d'acte de contrefaçon parce qu'il y a des dispositions déjà prévues par une directive de 2019, elle-même transposée en droit français dans le code de la propriété intellectuelle, qui permet du coup de dire on n'est pas en train de faire un acte de contrefaçon. Je vous passe les débats juridiques, mais ça, même cette position de la Commission européenne, elle est challengée par les juristes. Et donc on a un sujet de se dire, ben, quand j'entraîne mon IA, est-ce que je suis en train de faire un acte de contrefaçon? Il faut savoir qu'il y a plusieurs ayants droit qui ont fait des actions, notamment la société, la banque de données que vous devez connaître d'image, Getty Images, qui a fait une action aux États-Unis, en Californie plus précisément, sur ces sujets-là, contre Midjourney, Stability AI et DeviantArt, parce qu'ils avaient vu que toute la base de données Getty Images avait été aspirée pour pouvoir permettre à ces IA ensuite de fonctionner. Et donc, voilà, on a considéré c'est encore en cours sur un acte de contrefaçon. Il y a quand même un sujet, c'est selon comment l'IA est utilisée, il y aura plus ou moins de la preuve. Donc, si l'IA en données de sortie est capable de reproduire une donnée d'entraînement telle qu'on lui a donnée, ou une donnée d'entrée, là, il y a un sujet, c'est parce qu'effectivement, il y aura une reproduction, et donc on pourra estimer qu'il y a contrefaçon. Parfois, certaines IA sont alimentées par ça, mais derrière, en contenu généré, ne permettent pas de reproduire le contenu. Et donc là, il y a des questions de preuve, parce qu'on va dire, bah, en fait, on va être incapable de prouver qu'il y a eu telle utilisation. Pour l'exemple, je vous donnais la société qui nous avait consulté pour faire de l'analyse de cheveux. Elle avait scanné Google Images en tapant portrait et elle avait alimenté comme ça son IA pour faire de l'analyse de portrait. Derrière, on ne produisait pas du portrait. Donc, finalement, cette société se disait, mais il va voir que j'ai scanné toutes les photos protégées par le droit d'auteur éventuellement que j'ai mis dans ma machine pour l'alimenter. Donc déjà, on voit une problématique liée à la protection du droit d'auteur au moment où j'alimente mon IA en données d'entrée ou en données d'entraînement. Et là où on a encore plus un sujet, c'est sur la donnée de sortie, le contenu qui est généré. Comme je l'ai dit à l'instant, certaines IA génératives vont vous permettre de produire du contenu tel qu'il était avant. Donc, vous pouvez avoir une IA qui va vous sortir une proposition de logo, une marque telle quelle, ou une œuvre protégée telle quelle. Certaines IA, vous lui demandez Guernica de Picasso, qui est encore protégée par le droit d'auteur, elle vous sort Guernica de Picasso. Donc, si vous l'utilisez telle quelle, ben là, vous êtes en train de faire un acte contrefaisant. Et donc là, on a un sujet, c'est que vos équipes, si jamais, et attention, hein, le code de logiciel peut être aussi protégé par le droit d'auteur. Donc, si vous avez des équipes qui, pour se simplifier la vie, utilisent de l'IA pour faire du code, pour faire la génération de contenu créatif de type texte ou image logo, elles peuvent tout à fait se dire derrière, ah ben, j'ai eu un super boulot, je l'utilise pour ma com externe, je l'utilise pour vendre à un client, notamment par exemple dans une agence de communication, on propose à un client un logo généré par IA, on pourrait proposer un logo qui est constitutif d'un acte de contrefaçon. Donc là, il y a un véritable sujet. C'est que si votre ressource n'est pas capable d'identifier que ça ressemble fortement à un logo d'une autre entreprise, elle va le proposer du coup au client final, et le client final, vous allez lui vendre un logo qui est contrefaisant. Pareil pour du code. Donc, si le code on considère comme original. Donc là, il y a vraiment un sujet, et il y a vraiment de la sensibilisation à faire auprès des équipes créatives sur ces sujets-là. Et l'autre question, c'est quand bien même j'ai demandé à l'IA de travailler, tout à l'heure on parlait de textes produits par les équipes marketing. Et si on se rend compte qu'on a un concurrent qui produit les mêmes textes, est-ce qu'on peut l'attaquer en contrefaçon? Là encore, il y a un petit flou juridique. Certains nous disent tout ce qui est produit par l'IA, déjà, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur parce que l'IA, il faut une œuvre de l'esprit. Donc, par esprit, on fait référence à l'humain. Et quand on utilise une machine, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'humain. Donc, ces critères, ils ne marchent pas. Pour être protégé, un texte ou une photo, il faut qu'elle soit originale. Originale, ça veut dire par là qu'on ait la patte de l'auteur, l'empreinte de sa personnalité. Et comme il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'humain, ben on va là encore écarter la protection. Donc, on a une certaine tendance à dire tout ce qui est généré par IA, c'est dans le bien public, c'est pas protégeable, c'est juste je le possède, c'est à moi, mais je ne peux pas dire c'est protégé par le droit d'auteur. Alors, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de ça, et si ce n'est pas le législateur qui viendra trancher, ça sera les tribunaux qui viendront trancher. C'est parce qu'il y aura nécessairement dans très peu de temps des litiges à ce sujet-là. Et si, notamment dans le cadre des instructions que j'ai données à l'IA, donc dans le cadre du prompt, je suis allé rechercher, j'ai fait preuve d'originalité moi en tant qu'utilisateur, est-ce que le résultat de l'IA, finalement, on ne peut pas considérer quand même qu'il est original. Il y a un débat. Là où il y a moins de débat, c'est que si vous prenez le contenu généré par l'IA et vous le retravaillez. Tout à l'heure, j'entendais les annonces d'emploi. Alors, est-ce qu'on veut protéger une annonce d'emploi par le droit d'auteur? Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, retravailler du contenu généré par l'IA, là, pour le coup, on dira oui, l'humain est intervenu, donc on peut aller chercher une protection. Et puis enfin, il y a un risque, c'est si jamais, par exemple, vous demandez un logo type Van Gogh. Hein, donc, on va vous faire un logo avec du coup les traits de Van Gogh. Alors, bon, Van Gogh, c'est plus protégé par le droit d'auteur, mais imaginons, ben, on se retrouverait avec une œuvre où éventuellement les ayants droit de Van Gogh pourraient réclamer du coup la propriété sur le contenu généré. Donc, vous voyez, beaucoup de questions, et on a quand même vraiment un doute sur est-ce que ça peut être protégé par le droit d'auteur. En revanche, là où on n'a pas de doute, c'est que votre contenu généré par IA, il peut être constitutif d'un acte de contrefaçon. Alors, attention, la technologie n'est pas, finalement, ne crée pas un risque nouveau, hein. Un créatif pourrait tout à fait fortement s'inspirer de ce qu'il a vu dans ses recherches, etc., et tellement s'inspirer que finalement on est sur de la contrefaçon, par exemple, d'un logo ou d'une ligne de code qu'il aurait pu voir par ailleurs. Donc, l'IA ne crée pas un risque nouveau, mais je dirais elle peut l'accélérer puisque on va avoir plus de contenu généré par ces outils, puisque ça demande quelques instructions par prompt, plutôt que prendre sa tablette et travailler sur un logo. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Après, juste un dernier point, si par exemple vous demandez des suggestions de marque, et que l'IA vous propose une marque, et derrière, vous vous assurez que cette marque, elle n'est pas déjà déposée par une entreprise comme une recherche classique. Là, on pourrait penser qu'il n'y a pas de difficulté du coup à réutiliser du coup cette marque et à la déposer auprès de l'INPI, même si elle vous a été suggérée par IA. Avec un point d'attention, c'est que l'IA ne s'il y a une demande similaire par un concurrent, pourrait tout à fait proposer de mêmes résultats. Donc là, il faut faire attention sur du coup la temporalité pour être sûr d'être le premier pour avoir déposé la marque auprès de l'INPI. Bon, je me rends compte que j'ai pas mal fait appel à pas mal de concepts de droit de la propriété intellectuelle, mais c'était voilà pour attirer votre attention sur le fait que demain, on pourrait tout à fait avoir des auteurs qui se plaignent parce que vous avez mis dans votre IA des textes, des photos, des images, des dessins qui leur appartiennent. Et on pourrait aussi avoir des concurrents qui se plaignent parce que du coup, vous utilisez des textes, des photos, des images qui en fait avaient été préalablement injectées par l'IA et l'IA vous l'a ressorti telle quelle ou très peu amendé et du coup, on est clairement sur un acte de contrefaçon. Donc, encore une fois, le gros conseil, c'est sensibiliser vos équipes sur ces sujets-là. C'est un véritable sujet. C'est difficile à appréhender, mais pour autant, on va quand même dire, enfin, voilà, certains très bons codeurs, on va dire, oui, là, son code, il est clean, il va droit au but, etc. Et d'ailleurs, pour faire la preuve hein, quand le code a été piqué, certains développeurs font exprès derrière de mettre des lignes de code qui n'ont aucun intérêt pour derrière voir si elles ont été reprises texto dans un code d'un autre logiciel, de se dire bah là voilà, il nous a clairement repris notre code. Ça, c'est juste sur l'aspect preuve, mais pas sur l'aspect originalité. Mais donc si on estime que voilà, ce code est original, donc protégeable par le droit d'auteur, et que l'IA vous propose finalement, je ne sais pas pourquoi, alors là, on en arrivera sur le problème numéro 3 juste derrière, c'est si l'IA, elle a eu à un moment accès à ce premier code protégeable par le droit d'auteur et qu'elle vous le ressort texto, ben, il y a quand même un sujet, c'est que derrière, vous allez avoir dans votre solution applicative, dans votre logiciel, du code qui, est protégé par le droit d'auteur et qui appartient à un tiers, donc la première société qui aura fait les développements informatiques. Donc, après, pour le code, déjà, on regarde la sensibilité du code et je parle pas de tâches que tout le monde connaît et on peut aller retrouver sur GitHub en licence open source. Hein. Je parle voilà, vraiment de code spécifique. Là, je vois donc concrètement, en pratique, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est là où on va trouver les plus gros risques. Là où on commence à voir les risques, c'est sur les images générées et donc photographies et logos. Là, clairement, on commence déjà à avoir des sujets. La preuve en est l'action Getty Images, où parfois, quand vous alliez sur Midjourney, on a quand même, vous demandiez un portrait, il y a eu des tests qui ont été faits, on vous ressort texto, la photo telle qu'elle a été donnée en données d'entrée. Du coup, imaginons, je passe au cas numéro 3, utilisation d'une IA pour faire un business plan ou donc pour votre propre entreprise, vous mettez des données de clients, de ventes, etc. Donc là, je suis plus par exemple sur un sales qui veut se faire aider par l'IA pour son prochain plan d'attaque sur le prochain trimestre et donc injecte pas mal de données confidentielles. Là, ça va amener à deux problématiques. Déjà, éventuellement, vous allez perdre la protection par le secret des affaires qui vous pourriez éventuellement bénéficier sur ce type d'information. Pour rappel, une information, elle est protégée par le secret des affaires quand cette information, elle n'est pas connue par les gens du secteur, quand elle revêt une valeur commerciale effective et quand elle fait la part de mesures de protection raisonnables. Le cas d'un business plan, quand on ne le partage pas, il est en interne, il n'est pas connu de la concurrence. Ça a clairement une valeur commerciale importante, puisqu'on va avoir les chiffres de vente, etc., sur les années précédentes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis, on le fait pas circulariser de façon librement. Donc, on peut estimer que là, il y a une protection par le secret des affaires. Et ben, si vos équipes commencent à mettre ce type de données sur les IA génératives, elle vient faire perdre du coup le caractère secret puisqu'on va considérer du coup qu'elle allait mettre la donnée sur un outil qui n'assure pas de protection. C'est d'ailleurs précisé dans les conditions générales d'utilisation de beaucoup de ces IA. C'est la même chose pour les traducteurs de type DeepL, vous savez, notamment sur la solution entre la solution gratuite et la solution payante, on fait part de la confidentialité, c'est notamment un des sujets. Donc, vous le voyez, on a là un risque, et c'est arrivé à Samsung, hein, où certains des collaborateurs ont mis des données qui étaient protégées par le droit d'auteur, par le secret des affaires, et du coup, ChatGPT a été banni de Samsung. Également, les bonnes pratiques de sécurité que votre RSSI aura mis en place au sein de l'entreprise, mais également, du coup, outre une violation des pratiques internes, une violation de la législation applicable, et notamment dans le RGPD, vous avez des obligations de sécurité de vos données. Et si la solution d'IA, surtout que maintenant elles apparaissent de façon erratique et du coup on n'a pas trop le temps de tester du coup les mesures de sécurité appliquées par ces solutions dans le cloud, et donc on se retrouverait éventuellement avec un manquement aux obligations de sécurité. C'est ce qui s'est passé en Italie, c'est pour ça que la CNIL italienne a bloqué ChatGPT à un moment, c'est parce qu'il y avait eu une violation de données avec une exposition de différentes données utilisateurs. Donc là encore, nouveau risque. On est en train de divulguer des informations qui auraient pu être protégées par le secret des affaires. On fait perdre le caractère donc de protégées par le secret des affaires, et on peut se mettre en violation des règles internes en matière de sécurité et permettre éventuellement à un tiers malveillant d'accéder aux données, et en plus de violer des obligations au titre du RGPD. Donc, vous voyez, là encore une fois, sensibilisation des équipes. Si on doit utiliser une IA, il faut d'abord qu'on ait pu tester, voir ce qu'elle propose sur certaines IA avec des environnements qui sont ségrégés, etc. Donc, là encore, c'est un prestataire comme un autre, et il faut qu'il puisse être analysé, et ce n'est pas une utilisation dans son coin d'un outil sur lequel on va balancer tous les résultats de l'entreprise. Ça, c'est encore de la sensibilisation, du bon sens, mais ces outils sont tellement faciles à utiliser, tellement pratiques et tellement puissants que ben, parfois on oublie bien évidemment les règles de bon sens donc, et qu'il faut garder. Et j'accélère le pas, mais le temps défile. Mon titre n'est pas à jour, mais j'en arrivais, pardon, à ce qu'on venait d'évoquer sur l'aspect contractuel commercial. Depuis, ouais, je crois que la première fois que je l'ai vu apparaître, il y a 2, 3 mois, je commence à voir apparaître dans les contrats de prestation de services avec des contrats d'analyse de données, etc., l'interdiction du recours à l'IA par le prestataire. On a de plus en plus ce type de clause, justement, notamment pour ces questions de confidentialité, etc. Sur des IA non pas développées en interne, hein, mais sur les IA génératives accessibles à tout le monde, où du coup on a ce type de clause. Donc j'attire l'attention, notamment pour les ESN, toutes les personnes qui vont être en régie en entreprise, de ne pas se mettre à utiliser intempestivement les IA si jamais dans le contrat de prestation de service, qui lie le prestataire avec le client, on a une interdiction d'utiliser ces IA génératives. Pourrait aussi avoir des manquements contractuels vis-à-vis de la société qui a mis à disposition l'IA. Donc, notamment quand vous allez dans les conditions générales d'utilisation d'OpenAI, vous avez l'interdiction d'affirmer que ce qui a été généré, c'est généré par l'humain. Bon, est-ce que pour l'instant vous allez avoir une action de Microsoft contre vous? Je ne sais pas, mais il faut quand même faire attention sur ces aspects-là qui sont à la fois éthiques, mais également quand même juridiques. C'est parce que du coup, vous allez éventuellement violer quand même les conditions générales d'utilisation que vous avez acceptées au début, de l'utilisation de l'outil. Donc attention à ce qui est écrit dans les contrats, parce que maintenant, on voit de plus en plus apparaître des stipulations spécifiquement relatives à l'IA. Et on en arrive donc à la responsabilité qui avait été évoquée à l'instant, avec ben, effectivement les questions des IA à qui vont générer des biais, des mauvaises réponses, et derrière des prestations de services qui vont être basées éventuellement sur ces IA, que ça soit de la conduite de véhicules, il y aura aussi de forts impacts en matière de solutions pour le médical, avec IBM qui avait proposé des solutions sur la détection de maladies, et du coup, il y avait eu de mémoire quelques loupés. Donc, on a également des sujets de responsabilité. Et quand vous vous penchez, j'ai pas fait le tour de tous les acteurs, mais quand vous vous penchez des principaux acteurs d'IA générative, il y a clairement un total dégagement de responsabilité de leur part, sur ces aspects-là. Donc, ne pas prendre pour argent comptant ce que vous propose l'IA, ça nécessite aujourd'hui encore une intervention de l'humain, pour s'assurer, de ce qui est proposé. Et enfin, éventuellement, des actions, des risques en concurrence déloyale, je l'ai déjà dit tout à l'heure, une IA peut vous proposer à vous et à un concurrent des mêmes résultats, et du coup, vous allez vous retrouver à exploiter des mêmes résultats. Et donc, la question, c'est, ben, est-ce que du coup, on prend le premier qui s'est mis à utiliser le même contenu? Est-ce que du coup, on fait un acte de concurrence déloyale en venant du coup utiliser par exemple une même documentation technique produite par IA, c'est des questions qui peuvent arriver demain. Donc là encore, il faut que les équipes soient conscientes des risques et on ne peut pas se mettre en tout cas à utiliser l'IA de façon systématique dans son activité si on n'a pas validé tous ces points-là en amont. Là, on est sur les premiers risques existants et ce n'est pas fini, puisque comme je l'ai annoncé en introduction, on attend le règlement européen sur l'IA qui va venir s'appliquer aux fournisseurs d'IA, mais apparemment, on commence à avoir des dispositions relatives aux utilisations de l'IA. Donc, même si vous n'êtes pas fournisseur d'IA, le fait d'utiliser certaines IA, ça pourra s'appliquer à vous. Le texte a été proposé en 2021 et il sera sûrement effectif entre 2024 et 2026. Il est beaucoup discuté, beaucoup modifié et notamment il y a eu des modifications importantes avec l'arrivée des IA génératives très récemment et où du coup les rapporteurs sur le texte sont venus proposer des nouvelles dispositions pour pouvoir s'appliquer également à ChatGPT et compagnie. Juste un rapide point. Dans le texte, en fait, ce qui va être prohibé, il y aura certains usages prohibés du type du scoring social, comme on peut voir en Chine, hein, ou encore de la reconnaissance faciale à distance biométrique avec des caméras où vous marchez dans la rue et qui vous reconnaissent. On aura des usages à haut risque qui vont être soumis à validation préalable par les autorités. Et là, on a le recrutement. Alors, il faudra donc ça sera les fournisseurs de ces solutions où il y aura du coup le recrutement qui est happé. Donc, point d'attention à surveiller pour ce qui concerne les personnes autour de la table. On le voit aussi donc au risque pour du medical device. Puis après, des niveaux d'utilisation plus faibles où c'est pas on fait n'importe quoi, mais on aura des exigences moins importantes et notamment pas de validation préalable de l'outil en amont, puisque les effets de l'IA et les risques sur les personnes et leurs droits seront plus faibles. Et en 2 secondes, ce que l'on voit s'appliquer de plus en plus, il y a beaucoup pour l'instant, des grandes sociétés, des grands groupes, mais en tout cas, on a pu assister au cabinet plusieurs entreprises dans le déploiement de chartes d'utilisation de l'IA comme une charte informatique, annexée au règlement intérieur pour lui donner force exécutoire à l'encontre des collaborateurs qui ne respecteraient pas cette charte, et également c'est couplé avec des actions de sensibilisation afin de s'assurer que il vaut mieux prévenir que guérir, et donc s'assurer qu'on n'ait pas besoin de sanctionner un utilisateur au titre de la charte, mais que les usages des IA soient correctement faits. Et ça, on le voit vraiment de plus en plus de sociétés qui se dotent de ce type de documents.